Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Spectateur. Et aujourd'hui, nous avons un programme un peu chargé puisque nous couvrons deux spectacles. Il s'agira d'abord d'un chêne qui a été joué au TNG. Puis, dans un second temps de l'émission, nous parlerons de Journal d'un disparu qui était certes joué au TNP, mais qui était une production de l'Opéra, même si c'était très très mal indiqué. Alors, pour parler de tout ça aujourd'hui, je reçois Juliette et Colline. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Marie.
Alors, vous avez suggéré qu'on commence par un chêne, et vous m'avez un peu attirée pour cette émission en me disant que c'était une pièce avec un concept étonnant. Est-ce que vous pouvez d'abord nous en parler un petit peu? En quoi est-ce que ça consistait? Et ensuite, on parlera de ce que vous en avez pensé.
Alors, un chêne, c'est une pièce duo. L'histoire est très simple, c'est l'histoire d'un hypnotiseur un peu raté qui hypnotise sans le savoir le père d'une jeune fille qu'il a tuée dans un accident de voiture.
D'accord.
L'histoire se résume à ça, mais la pièce dépasse complètement cette histoire puisque l'hypnotiseur est un comédien averti qui connaît le texte et la mise en scène, alors que celui ou celle qui joue le père et un comédien ou une comédienne invitée ce soir-là et qui découvre le texte en direct.
D'accord, et en plus, donc, ça change de comédien ou de comédienne tous les soirs.
Voilà, puisqu'il faut que ce soit une découverte à chaque fois. Donc là, le soir où on l'a vu, c'était une comédienne.
Ok. Quelque chose à ajouter, Juliette?
Non, c'était parfaitement résumé.
Alors, du coup, est-ce que ça vous a séduit, ce concept?
Moi, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. Il y a des moments qui m'ont extrêmement gênée parce que l'hypnotiseur... c'est vraiment un spectacle d'hypnotisme assez malsain et malaisant, parfois, qui va vraiment vers l'humiliation presque du comédien, qui est tout à fait fictive, hein. Je veux dire, il n'y a aucun geste, vraiment, tout est dans la parole, et je pense que c'est aussi ce que veut montrer le spectacle, le pouvoir de l'imagination et de la parole sur le comédien et sur les spectateurs. Et j'ai eu un peu de mal avec ça, et en même temps, je trouve que c'est un spectacle auquel on réfléchit beaucoup après en se disant « Oui, mais justement, est-ce que ce malaise n'était pas provoqué avec une intention certaine, parce que le malaise est ressenti par le comédien aussi, qui ne sait pas du tout dans quoi il est embarqué et qui le découvre petit à petit, exactement comme le spectateur. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant que le comédien soit vraiment mis d'emblée de notre côté. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs phrases où, dès le début, il lui dit « Ne vous inquiétez pas, les spectateurs sont de votre côté, ils ne sont pas du mien. » Dès le début, ça, on le sait. Il lui redit petit à petit... ce n'est pas vous qui êtes humilié, c'est moi qui suis ridicule. Enfin, c'est mieux dit que ça, mais c'est quelque chose comme ça. Plusieurs fois, c'est répété, pas forcément de manière très appuyée, mais juste on nous dit assez souvent que le comédien est de notre côté pour le rassurer et peut-être pour nous emmener un peu plus dans le spectacle. Et du coup, ça, j'ai trouvé pas mal, mais il n'empêche qu'il y a certains moments qui m'ont pas totalement convaincue de ce point de vue de malaise et de situation d'enfermement complète.
Moi, j'ai trouvé justement le malaise vraiment intéressant. Enfin, j'ai eu vraiment 10 minutes où je me suis demandé si c'était très malsain ou si ça avait un but un petit peu plus que ça. Et au final, j'étais plutôt convaincue par ça parce qu'effectivement, on est embarqué dans un espèce de spectacle d'hypnotisme complètement foireux où en fait, l'hypnotiseur humilie complètement le personnage, parce que le personnage est vraiment hypnotisé. Et c'est-à-dire que lui, il a tellement pas confiance en ses propres capacités d'hypnotiseur qu'en fait, il est persuadé que l'autre fait semblant d'être hypnotisé, et du coup, il le pousse à s'humilier avant de comprendre qu'en fait, il lui obéit parce qu'il est vraiment hypnotisé. Et effectivement, c'est lui qui se retrouve... c'est lui qui est un personnage graveleux et assez détestable.
Alors concrètement, vous m'avez expliqué que le fait que l'un des comédiens guide l'autre, ça se passait pas en trois temps, mais il y avait un peu trois modes de guidage. Est-ce que vous pouvez les détailler un petit peu et me dire aussi si ça vous a convaincu en matière de mise en scène et d'occupation de l'espace, de jeu scénique?
Je crois qu'au tout début, il lui donne concrètement un texte écrit sur une petite plaquette. Donc les deux lisent, même le comédien qui connaît le texte lit le texte avec l'autre. Et c'est un peu une entrée dans le spectacle au tout début, c'est-à-dire qu'il lui dit même « Vous avez des questions ?» Et en fait, c'est écrit sur la feuille de l'autre « Non, pas vraiment ». Enfin, c'est extrêmement étrange déjà comme entrée en matière. On comprend tout de suite le concept. Il y a des autres moments où il lui dit des choses dans une oreillette, donc on ne voit pas le comédien qui connaît donner les ordres. Et enfin, il y a un troisième mode où il lui dit, en chuchotant plus ou moins fort, dirons-nous, mais à chaque fois on entend ce qu'il lui dit, concrètement ce qu'il doit dire, genre « je m'appelle nanana, dis comment je m'appelle », et l'autre, le comédien qui ne connaît pas, dit « comment je m'appelle » à l'autre.
Ouais, que ce soit des indications de texte, oui, ou des indications de placement, par exemple. Il y a une rangée de chaises sur la scène qui est censée symboliser les différents personnes qui se font hypnotiser, mais en réalité il n'y a que deux, l'hypnotiseur et celui ou celle qui joue le père, et du coup il se déplace et il tapote la chaise en disant viens t'asseoir là, et
ça lui permet de jouer plusieurs personnages à ce moment là
Oui, et en fait ce que je voudrais rajouter, c'est que au moment où les deux acteurs lisent les feuilles, en fait ils jouent pas l'hypnotiseur et le père, ils jouent leur propre personne d'acteur. C'est-à-dire que dans le spectacle se mêlent différents niveaux de réalité. Ça joue vraiment sur ça. C'est-à-dire que du coup, les moments où ils lisent la feuille, le comédien qui joue l'hypnotiseur appelle le comédien ou la comédienne par son prénom. Donc là, par exemple, il lui disait « Laure, est-ce que tu vas bien ?» Mais c'était écrit. C'était écrit « nom de l'acteur, est-ce que tu vas bien ?» acteur 2, oui, ça va plutôt bien. Et du coup, ça donne quelque chose de très étrange, parce qu'en même temps, on a l'impression que c'est vraiment une conversation entre eux qui coupe un peu le spectacle et qui nous rassure aussi d'un côté, justement dans ce côté humiliation, jeu de domination sur l'autre qui connaît pas la pièce. Et donc là, dans ces moments de sas, un petit peu, on se dit « Ah, c'est bon, l'autre est d'accord pour continuer, il trouve ça intéressant ou quoi. » Et en même temps, c'est écrit. Donc même si l'autre voulait répondre « Non, en fait, là, je le sens pas trop », il faudrait quand même qu'il réponde « Oui, ça va plutôt bien.
Ouais. »
Peut-être qu'il pourrait répondre « Non, ça va pas vraiment trop. » Enfin, moi, je me suis vraiment demandé, parce que du coup, ce spectacle a déjà été joué une fois en septembre et il sera rejoué en avril, donc avec bien sûr des comédiens différents. Et je pense que ça vaudrait le coup d'aller voir, ou même d'aller voir d'autres représentations. Je pense qu'ils le font d'année en année aussi, parce qu'il a parlé de pièces qu'il l'avait déjà joué l'année dernière,
oui,
je crois.
Dans la salle, il y avait un comédien qui l'avait joué l'année dernière. Et c'était vraiment intéressant, parce qu'à la fin de la représentation, du coup, il y a eu un moment d'échange où ils ont vraiment, du coup, partagé ce qu'ils avaient ressenti. On a pu vraiment discuter. La comédienne était, pour le coup, plutôt rassurante et positive, oui, sur cette expérience-là. Et dans la salle, il y avait donc le comédien qui l'avait joué l'année dernière. Et c'était intéressant de les entendre discuter tous les deux et dire qu'en fait, le comédien qui l'avait joué l'année dernière se rendait compte en voyant la pièce qu'en la jouant, il ne l'avait pas vraiment comprise et qu'il redécouvrait des choses.
Je pense qu'il fallait l'avoir plusieurs fois pour la comprendre, parce que justement, le fait que le comédien découvre... Enfin, moi, je trouve que comme le comédien découvre la pièce au fur et à mesure... Moi, j'ai pas forcément senti le texte, j'ai pas senti les moments de rupture entre précisément les moments où il y a père hypnotiseur et les moments où il y a comédienne comédien. Donc on avait du mal à entendre les ruptures dans le texte, et j'aimerais bien savoir si parfois les comédiens prennent plus de liberté avec le texte, ou réagissent différemment, ou montrent plus d'émotions. Enfin, toi, tu trouves qu'elle montrait de la surprise et tout quand elle avait les indications, et moi je trouve qu'au contraire ça manquait un peu de... Je sais pas, de plus de fantaisie, de plus de moins prendre au sérieux ce qu'on est en train de faire, et davantage, suivre un peu avec vraiment les spectateurs le texte. Et j'aurais bien aimé qu'elle partage un peu plus avec nous, même si je comprends que c'est extrêmement difficile, parce que juste elle est embarquée dans quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle s'attache juste à essayer d'entendre les indications qu'elle entendait assez mal. D'ailleurs, elle nous a dit à la fin qu'elle avait du mal dans l'oreillette à comprendre ce que l'autre lui disait. Mais voilà, j'ai pas été totalement convaincue par ce manque de liberté absolument totale.
Ouais, moi, au contraire, ça m'a vraiment convaincue, parce que je m'attendais pas à voir un spectateur sur scène. Tu vois, c'est pas un spectateur lambda qu'on prend, c'est quand même un comédien. Et du coup, de voir le comédien à l'œuvre en direct, on va dire... Tu vois, de fait qu'il entend sa réplique, et tout de suite il l'a dit, et on sent, on voit ses yeux monter vers le ciel, on sait le moment où il est en train d'écouter ce qu'il va dire, et on voit qu'au moment où il le dit, il se demande « est-ce que c'est bien comme ça que je le dis ? Est-ce qu'il faudrait que je le dise autrement ?» Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant et ça participe de ces différents niveaux de réalité parce que même dans l'histoire, en fait, l'hypnotiseur et le père, c'est pas le seul espace-temps de la pièce, on va dire, parce que il y a des moments où le père est happé dans ses souvenirs du moment de l'accident, du moment de après l'accident, en fait, il va se recueillir sur l'endroit où sa fille est morte.
Et où il y a un chêne, en fait. Il pense que sa fille s'est transformée en chêne, ou on ne sait pas trop. C'est pour ça que la pièce s'appelle Un chêne.
Voilà, et on ne sait jamais trop à quel moment on est dans le présent du spectacle, à quel moment il est au bord de la route avec le chêne. Et du coup, enfin. Je trouve que c'est tout se mêle parce qu'on ne sait jamais trop non plus à quel moment la comédienne savait vraiment ce qu'elle faisait ou si juste elle répète mécaniquement.
Ouais, et ça c'est accentué juste pour le truc de l'espace-temps, c'est accentué parce que au début il dit, enfin le comédien qui connaît le texte, enfin du coup qui lit le texte, dit disons que ce spectacle d'hypnotisme a lieu dans un an. Exactement à la même date, donc le 8 février peut-être, le 8 février mais 2019, dans un an. Et l'accident a eu lieu en novembre 2018, en novembre 2018. Et donc on a tout un jeu aussi sur le fait que finalement tout est fictif, même l'accident au final est fictif, parce que si on se met dans l'espace-temps actuel de février 2018, bah au final l'accident n'a pas eu lieu.
L'accident n'a pas encore eu lieu.
Et donc il y a un gros jeu sur ça et du coup ça participe à un flou qui est intéressant, mais voilà, je trouve que les ruptures on les sent pas assez encore une fois.
Moi ça m'a vraiment convaincue sur le texte de Tim Crouch qui est un auteur anglais du coup la pièce est une traduction de sa pièce, donc c'est un comédien auteur qui écrit pour lui, en fait c'est ce qu'ils expliquaient à la fin de la rencontre, c'est-à-dire qu'il écrit ses propres textes, souvent des solos, et ça m'a donné envie d'aller voir d'autres spectacles de lui, d'aller en lire, j'ai l'impression d'être vraiment entrée dans une écriture intéressante.
D'accord, alors toutes les deux vous aviez l'air plutôt partante pour éventuellement retourner voir la pièce quand elle repassera en avril. Pour les auditeurs qui ont encore jamais vu cette pièce, est-ce qu'il faut déjà commencer à aller la voir en avril?
Ah oui. C'est une expérience vraiment unique. Moi, j'avais jamais vu ça ni entendu parler de ce genre de pièce.
Merci à toutes les deux. On file cette fois au nord de Lyon, à Villeurbanne, pour aller voir au TNP, une pièce qui était cependant produite par l'opéra, puisque c'était un opéra, à savoir Journal d'un disparu. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous voulez bien nous présenter un petit peu ce spectacle en quelques mots?
Alors, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est un petit peu compliqué. Donc
c'est plutôt compliqué. Prends ton temps.
Enfin, donc c'est un opéra de Leos Janáček, qu'il a composé à partir d'une série de poèmes au début du XXe, qui sont, je ne sais pas s'ils sont anonymes ou publiés dans un journal, je ne me souviens plus exactement, j'ai du mal à retrouver. Bref, donc sur l'amour entre un jeune paysan et une femme tzigane qu'il n'accepte pas au début, qu'il repousse précisément parce que c'est une tzigane et que c'est mal accepté, je crois, si on comprend bien le texte.
Ouais. Et finalement, quelque chose un peu cliché, Carmen.
Il finit par succomber à ses charmes, bien évidemment.
Évidemment.
Et voilà, ils partent ensemble avec donc leur fils, je crois, puisqu'ils ont un fils, et ils finissent par partir ensemble. Et en fait, ça a rappelé à Leos Janáček sa liaison amoureuse avec une femme, et du coup, il a décidé d'écrire là-dessus, parce que voilà, ça lui rappelait ses propres souvenirs et sa propre liaison amoureuse. Donc, il a écrit un opéra à partir de cela, en tentant avec la musique, je pense que c'est important parce que la musique était assez fabuleuse, de retrouver la voix de cette femme qu'il ne pouvait pas forcément voir. Ils ont échangé des lettres.
D'accord.
Et donc, voilà, il y a une recherche sur la musique autour de peut-être chercher la voix de quelqu'un qui n'est pas là, des disparus, je ne sais pas exactement.
Et pour la mise en scène, cet opéra prend place dans une mise en scène très chargée, très réaliste. Enfin, c'est vraiment une vraie pièce qu'on a en face de nous, mais qui est un laboratoire photo.
Donc voilà. Rien à voir avec un paysan et une tzigane au 19e.
Pas du tout.
Non, rien à voir.
Ce qui choque parfois. Du coup, le texte choque parfois parce qu'on a vraiment un vrai décalage entre le paysan qui a ses bœufs, qui parle à ses bœufs, et le décor assez. Enfin, pas contemporain, mais en tout cas très réaliste et moderne, dirons-nous.
Oui, pas un endroit où on change une roue de charrette. Quoi.
Voilà, c'est non. Ça.
Alors, du coup, est-ce que cet ensemble un peu bizarre vous a convaincu?
Moi, je dirais pas convaincu, mais je dirais intrigué.
Intrigué en bien ou en mal, Colline?
Je dirais intrigué et amené vers l'imaginaire. C'est-à-dire que l'ensemble était tellement disparate entre cette mise en scène qui racontait une chose et ces chants qui racontaient complètement autre chose, que je me suis un peu laissée vagabonder à aller chercher le rapport, et je me suis laissée prendre par la musique qui est très belle et en même temps qui est vraiment intéressante, parce que la voix des chanteurs et les instruments jouent sur deux lignes mélodiques différentes. Et du coup, quand ils partent ensemble, on ne sait jamais trop à l'avance si ça va être joli ou si ça va être dissonant. Et au final, ça revient tout, ça réussit toujours à se mêler ensemble pour faire une seule belle harmonie, mais une harmonie toujours un petit peu dissonante, ouais. Comme ça, qui grince. Et du coup, c'était intéressant à observer ça.
C'était accentué par le fait qu'on avait donc trois chanteurs en général sur scène, plus la pianiste, puisque le piano était sur scène. Et on avait, en fait, on a découvert à la fin qu'il y avait un chœur de trois femmes qui était caché derrière une sorte de...
Ah oui,
paravent, mouchard habillé, je sais pas exactement ce qu'était, enfin c'était, bref, un décor assez joli en fond, et en fait on les entend, et je trouve qu'on savait pas exactement d'où sortait le son, parce que des fois ils allumaient une radio où on avait un son assez clair qui sortait, enfin un vieux poste de radio, et on a découvert à la fin qu'en fait les sons très dissonants qu'on avait avec la chanteuse et donc ces voix de femmes dont on ne savait pas d'où elles venaient, étaient vraiment produits en direct derrière cette espèce de paravent, et c'était... ça faisait exactement des sons dissonants et finalement très beaux qui s'entremêlaient. Et moi, c'est vraiment les moments que j'ai préférés, ces voix de femmes. Vraiment, c'était très, très beau. Et simplement, pour la scéno, oui, c'était très chargé. Et j'avoue, même on pourrait dire trop chargé, de mon point de vue. Je trouve que c'était assez sous-exploité ou alors exploité de manière hyper grossière. Enfin, oui, comme tu l'as dit, on avait un atelier photo, donc avec des photos... Bien sûr, ils développaient des photos de cette zigane, cette magnifique zigane qui nous projetait contre le mur et qu'ils barraient avec rage quand ça n'allait pas entre eux. Et je trouve que c'était un peu trop surligné, en fait, et un peu trop « Oh, regardez, on ne s'aime plus, du coup, je barre sa photo. » Et ça m'a un peu fatiguée, en fait. Et je trouve que, vu la musique, ça aurait pu être beaucoup plus simple et avec un piano sur scène. Il y avait une bibliothèque aussi avec un salon plutôt au côté court. Et simplement, voilà, faire un décor un peu plus chaleureux comme ça, avec des livres, et pas besoin de toutes ces photos. Et enfin, j'ai pas tellement compris ce besoin de surcharger la scène.
Mais moi, ça m'a vraiment intriguée. Déjà, parce que j'ai pas tout bien compris, et je suis contente de pas avoir tout bien compris, parce que vu l'histoire très très simple, pas forcément très intéressante de l'opéra des chants en eux-mêmes, du coup ce second niveau amené par la mise en scène, j'ai trouvé ça très intriguant, parce qu'il y avait deux hommes et une femme, et j'ai eu l'impression que l'homme jeune, c'était l'homme du présent, on va dire, qui commençait à sortir avec la zigane, et que l'autre, à la fois c'était son père, mais oui. À la fois c'était lui,
en plus
vieux, ouais. Qui regardait en arrière et qui justement était dans cette chambre photo, un peu comme l'antichambre des souvenirs, qui développait les photos de son amour passé, et qui regardait et qui disait, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment ça s'est passé, et ce double niveau-là, du coup, très, très mystérieux, hein, parce que c'est vraiment libre interprétation, et enfin, ça peut, les deux peuvent aller en ligne droite sans jamais se rencontrer, quoi. Mais ça m'a intéressée.
Mais en fait, moi, j'étais... Au départ, en fait, tout est très silencieux, et donc la femme... qui va être la femme de l'homme vieux, mais aussi la zigane, enfin, elle enlève son manteau et son rôle change un peu, arrive sur scène et donc fait du café, très tranquillement. On a vraiment un long moment assez silencieux, en fait. Ensuite, elle va au piano, avec la radio, elle apprend à jouer quelques notes, puis elle se met à chanter, mais tout ça prend beaucoup de temps. Et j'ai trouvé cette lenteur du départ, qui jouait précisément avec le décor installé, très très belle. Et je m'attendais à ce que ce soit exploité un peu de la même manière après, en prenant davantage son temps. Et je trouve que finalement, on a plein d'appareils. Enfin, on a cette radio, on a une sorte de rétroprojecteur, on a encore autre chose,
on un truc pour passer des
vidéos, un vieil appareil
projette.
Pour passer des vidéos. Mais tout ça sert une seule fois dans le spectacle qui ne dure quand même qu'une heure. Donc, je comprends que ça ne serve qu'une fois, mais pourquoi mettre autant d'appareils pour juste dire, regardez, waouh, on s'en sert une fois et on peut s'en servir de... Enfin, voilà, je trouve que c'était un peu superflu et que la lenteur qu'on avait au départ simplement avec faire du café avec une machine à café était déjà... une très bonne idée et je m'attendais à ce que ce soit exploité un peu de la même manière par la suite et ça n'a pas été le cas.
Bon, alors avant de refermer cette discussion, je crois que vous vouliez quand même râler un petit coup.
Je râle contre la plaquette et les mots du metteur en scène du coup, qui explique que dans cette mise en scène, la femme tzigane devient active de son destin, que ça devient le personnage principal, etc. Alors, je ne pense pas que jouer trois notes au piano et puis après s'allonger par terre pendant une demi-heure fasse d'elle une femme active de son destin.
Elle reste vraiment une femme mystérieuse. Et certes, elle est active, mais elle est quand même... seule sur scène, tandis qu'on l'a dit, le cœur des trois femmes est caché et ne vient que pour le salut, c'est-à-dire que j'ai dit qu'elles venaient à la fin, mais elles ne viennent pas à la fin du spectacle, elles viennent quand on salue. Donc ces trois femmes ne sont pas présentes. Bon, il y a la pianiste, mais elle est un peu en dehors de la chose, on va dire. Alors que les deux hommes, comme tu as dit, le plus vieux et le plus jeune, sont en fait habillés exactement de la même manière, et donc un personnage est dédoublé. Donc dire qu'on a une présence plus forte des femmes, peut-être que oui, parce que même si elle est toute seule, elle prend une plus grande place, mais je suis pas forcément sûre que c'est ce qu'il faut mettre en exergue dans la plaquette en disant qu'on a presque une posture féministe. Enfin, je suis pas...
Oui, voilà,
pas
ça fait un peu récupération, quoi.
Oui, ça a l'air de rejouer beaucoup de clichés sur la femme mystérieuse et lointaine et inaccessible, un peu orientalisée. Bon, pas top top en termes de empowerment des femmes, on va dire. Alors du coup, ce très très court opéra qui dure moins d'une heure, est-ce qu'il faudrait aller le voir ?
Moi, je dirais plutôt pas forcément. Aller vraiment voir pour le concept, là, sans plus. Je le recommanderais pas nécessairement, je pense.
Oui, pareil, sans plus. Une heure, ça passe vite, donc heureusement. Mais non, voilà, les chants sont beaux, la mise en scène est belle, ça se recoupe pas forcément. On passe pas un mauvais moment, mais heureusement que ça dure pas une demi-heure de plus.
Bien, bien, très bien. On peut s'en passer. On note. Merci à toutes les deux. C'est la fin de ce numéro d'En Spectateur. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Il était animé aujourd'hui par Marie Lécuyer avec Juliette Meule et Colline Lafontaine. Alors, on vous retrouve très très vite pour vous parler de nouveaux spectacles, même si on ne sait pas encore exactement quand. Mais ne vous inquiétez pas, on revient très bientôt. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
En Spectateur.